100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Who wants to be a millionaire?
I don't.
Have flashy flunkies everywhere?
I don't.
Bonjour, après la France lundi, le Royaume-Uni à l'arrêt. Journée de grève historique hier, la plus massive depuis une décennie. Un demi-million de personnes étaient appelées à battre le pavé alors que le pays fait face à une inflation massive qui attise la crise économique. Et c'est dans ce contexte que sont apparus ces derniers jours les Patriotic Millionaires UK, ces militants improbables aux poches remplies font le buzz sur la toile. Bonjour Clémence Pénard.
Bonjour Léa Lisa.
Vous êtes allé voir de plus près ce phénomène car ces Anglais très très riches demandent à la surprise générale à être beaucoup plus taxés par le gouvernement britannique et c'est votre robe lunette.
Oui, tous les héros ne portent pas de cape. Certains se parent tout simplement de colliers Bulgarie et arborent leurs sacs griffés. Ces millionnaires anglais à mi-chemin entre le richissime oncle Picsou et Robin des Bois, généreux brigand, ont un message on ne peut plus clair. Taxez-nous plus, un souhait qui surprend évidemment sur les réseaux sociaux.
Les millionnaires patriotes, c'est une devinette, c'est ça ?
La réaction d'un internaute sur Twitter. Bon, une question légitime. C'est vrai que les ultra-riches ont plutôt la réputation de fuir les impôts. Vous vous souvenez des Pandora Papers ? Non, on ne parle pas du film Avatar, malheureusement, mais plutôt de ces milliers de milliards de dollars mis bien à l'abri par des célébrités du monde entier dans des paradis fiscaux. Alors, sur les réseaux sociaux, les Patriotic Millionaires UK utilisent eux-mêmes le hashtag TaxTheRich, utilisé plus de 100 000 fois quand même, sur Twitter.
Donc certains millionnaires, Clément, seraient en train de trahir finalement leur propre classe.
On peut dire ça, oui. Et la traîtresse originelle s'appelle Abigail Disney, la petite fille, vous l'avez deviné, du cofondateur des studios Disney. C'est elle qui a créé en 2010 aux États-Unis la première Justice League de ces super riches au grand cœur. Pour Abigail, être héritière n'a pas été qu'un conte de fées. Elle a beaucoup culpabilisé de posséder autant d'argent. Et d'après elle, plus on est riche, mieux on est conseillé par des comptables avertis et plus on est capable de faire de l'optimisation fiscale. Aujourd'hui, Abigail supplie les gouvernants de lui faire payer plus d'impôts et depuis d'autres fortunés se sont joints à sa cause. Les Patriotic Millionaires sont désormais 200 et viennent de 13 pays différents. La branche anglaise de l'association a donc beaucoup fait parler d'elle il y a 2 semaines, notamment grâce au multimillionnaire brit Phil White qui protestait au Forum économique mondial de Davos. Bonnet rouge et pancarte, on l'a compris, taxer les riches. On écoute son interview à l'AFP.
Nous pensons qu'il faut un impôt annuel sur la fortune, car l'extrême richesse génère en fait un certain nombre de problèmes. Il y a un problème économique lié au fait que les riches prennent de l'argent à la société et le gardent, alors que cet argent pourrait être utilisé à d'autres fins.
D'autres fins comme avoir de meilleures écoles, de meilleurs hôpitaux, une police ou encore des routes décentes, par exemple.
Et puis, il faut dire aussi, Clémence, que les 2 années de Covid n'ont pas arrangé les choses.
On le sait, hein, la pandémie a rendu les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Les inégalités s'accroissent avec de plus en plus de personnes qui doivent se rendre dans des banques alimentaires et même nouveaux phénomènes dans des banques de chaleur pour se réchauffer. Les prix de l'énergie ayant explosé cet hiver, particulièrement au Royaume-Uni.
Et aujourd'hui, dans le monde, les 2/3 des richesses produites depuis 2020 ont été captés par les 1% les plus riches.
Et oui, triste constat. Alors si même les 1% demandent à être taxés, il n'y a plus vraiment d'excuses, non ? Pourtant, pour le moment, Rishi Sunak, Premier ministre, plus riche encore, soit dit en passant, que Charles III, rejette cette suggestion. On se demande bien pourquoi. On vous laisse juste avec cette petite donnée pour finir. Rien qu'en France, par exemple, selon l'ONG Oxfam, taxer la fortune de nos milliardaires gaulois à hauteur d'à peine 2%, ça pourrait régler la question tant débattue des retraites.
Incroyable. Merci Clémence Pénard. On vous retrouve jeudi prochain.
Oui.
Trottinette, quick, quick, qui va aussi vite qu'une bicyclette.
J'ai une trottinette, quick, quick.
34 personnes tuées et 600 blessées l'année dernière en France, soit 3 fois plus qu'il y a 3 ans. On ne parle pas de voiture, mais bien d'accidents de trottinettes électriques. Dans l'Hexagone, les appels à mieux réglementer cette pratique se multiplient donc. Mais à Bruxelles aussi, on veut serrer la vis aux trottinettes partagées. Parmi les propositions sur la table, la mise en place de zones de parking et la limitation du nombre de trottinettes. Reportage dans la capitale belge de Laure Broulard.
À l'entrée du centre-ville de Bruxelles, des dizaines de trottinettes électriques sont garées pêle-mêle sur les trottoirs. Certaines ont été renversées et gênent le passage des piétons. La question du stationnement sauvage et de sa réglementation fait donc réagir les Bruxellois.
Comme vous voyez ici, en fait, la grande difficulté, c'est que ça se met un petit peu partout. Et vous avez des personnes qui abandonnent des trottinettes. Moi, j'ai régulièrement des trottinettes juste devant chez moi, à la sortie de mon immeuble. Vous ne savez même pas sortir de chez vous parfois quand vous avez des trottinettes où vous devez slalomer entre les différentes trottinettes et vélos. Et donc, je pense qu'effectivement, ce serait utile qu'il y ait des zones qui soient réservées pour les mettre.
La réglementation, c'est toujours bien. Maintenant, il faut voir l'impact que ça va avoir dans la facilité d'utilisation. Donc la présence un peu partout, moi je trouve ça plutôt positif.
Vous avez pris combien de temps à la trouver là, celle-là ?
3 secondes et demie.
Pour régler le problème, la région souhaite mettre en place des zones de stationnement dédiées. Camille Thierry est porte-parole de Bruxelles Mobilité, le service public en charge des transports.
On va définir des zones assez larges où on ne pourra plus stationner des trottinettes que dans des drop-off zones qui vont être marquées et réglementées un peu partout sur le territoire, que ce soit sur les voiries communales ou régionales.
Deuxième objectif, désengorger le service. On estime qu'il y a aujourd'hui plus de 20 000 trottinettes à Bruxelles, soit environ 200 pour 10 000 habitants, contre 120 à Berlin et 70 à Paris. Les autorités proposent donc de limiter leur nombre, tout comme celui des opérateurs.
On garde un marché ouvert, avec toute une série d'opérateurs donc, qui peuvent postuler pour avoir une licence à Bruxelles, mais nous, on va faire en sorte de les classer sur base de leur performance. Les deux premiers opérateurs classés pourront avoir chacun 5 000 trottinettes en service. Le troisième et le quatrième opérateurs classés pourront avoir 1500 trottinettes. Et donc on va essayer de limiter le nombre de trottinettes électriques à 13 000.
Les concertations autour de l'arrêté sont en cours, certaines communes de Bruxelles étant plus favorables que d'autres aux trottinettes électriques. La commune d'Uccle a par exemple beaucoup limité l'usage des véhicules. De leur côté, les opérateurs soutiennent la mise en place de règles plus claires. François-Xavier Giraud est directeur régional pour la Belgique de la société Tyr Mobility, qui possède 4500 trottinettes à Bruxelles.
C'est très important pour que les utilisateurs aient une compréhension claire des règles, là où aujourd'hui ça diffère entre certaines communes. Donc cette homogénéisation des règles va permettre une meilleure compréhension pour les usagers, donc in fine un meilleur respect des règles de stationnement ou de circulation avec le service de trottinette électrique. On soutient ce projet de drop zone qui a été fait d'un effort collaboratif avec les opérateurs et la région. Normalement, il devrait avoir une densité de stations assez importante pour que tout le monde ait une station à moins de 200 mètres de là où il habite. Donc normalement, si les communes jouent bien le jeu, la couverture du service sera toujours bonne malgré les drop zones qui seront établies.
L'arrêté devrait commencer à entrer en vigueur au printemps 2023, selon Bruxelles Mobilité. Il viendra entériner et compléter les normes déjà existantes, comme la limitation à 20 km/h, la limite d'âge à 16 ans ou plus et l'interdiction de monter à deux ou en état d'ébriété sur une trottinette partagée.
Je vais au travail, je veux souvent sur un bolide à deux roues que je peux conduire n'importe où. J'avoue, des fois, je fais le foufou. Je vais beaucoup.
En Allemagne, comme dans le reste de l'Europe, conduire une trottinette électrique en état d'ébriété est un délit. La semaine dernière, le débat a toutefois été relancé car certaines associations demandaient plus de souplesse envers les conducteurs de ces véhicules. Échec, les explications de Delphine Herbollier à Berlin.
La règle est stricte en Allemagne. Une trottinette électrique est considérée comme un véhicule à moteur. Elle est soumise aux mêmes règles qu'une voiture. Lorsque le conducteur a 21 ans ou moins, son taux d'alcoolémie toléré est nul. À partir de 21 ans, la tolérance monte à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Le conducteur pris en défaut commet alors une infraction. Il peut être sanctionné de 500 euros d'amende. À partir d'1,1 g d'alcool, le conducteur commet un délit. Il est renvoyé devant un juge. Il peut se voir interdire de conduire une trottinette électrique. Cette règle devrait rester en l'état. Une instance officielle qui réunit 1600 experts a tranché en ce sens la semaine dernière. Pourtant, certaines associations demandaient de la souplesse. C'est le cas de l'ADAC, spécialisée dans le domaine de l'automobile. Selon elle, une trottinette électrique ne dépasse pas les 20 km/h et se rapproche donc plus d'un vélo que d'une voiture. D'ailleurs, le port du casque n'est pas obligatoire et il n'y a pas non plus de permis à passer. Cette association demandait donc que la législation sur l'alcoolémie se rapproche de celle réservée au vélo. En Allemagne, les cyclistes n'en courent rien s'ils sont contrôlés avec un taux d'alcool inférieur à 1,6 g d'alcool dans le sang, à condition qu'il n'ait pas causé d'accident. La demande de l'ADAC a ainsi été rejetée avec un argument phare. Conduire une trottinette électrique en état d'ébriété n'a rien d'anodin. Le nombre d'accidents est en plein boom, plus 156% sur un an entre 2021 et 2022 sur tout le territoire allemand. Et dans 90% des cas, les conducteurs avaient consommé de l'alcool.
Merci à Scooter Street, grâce à toi, ça m'a donné... Nous on fait des figures, des backflips, des super whips. Nous le goûterons, on le fissure.
Les Pays-Bas sont connus dans le monde entier pour leurs vastes pistes cyclables, leurs immenses parkings à vélo et autres infrastructures pour cyclistes à la pointe de la modernité. Dans ce contexte, on pourrait croire qu'il est plus simple qu'ailleurs d'y faire de la trottinette électrique. Mais c'est en réalité tout le contraire, Antoine Moto.
Une trottinette couchée au beau milieu d'une piste cyclable tachée d'une grande mare de sang. Preuve de la violence des accidents impliquant ce type de véhicule, la photo publiée en novembre par la police d'Utrecht est accompagnée du texte suivant. La trottinette électrique peut atteindre une vitesse de 30 km/h. À cette allure, le risque de graves blessures lors d'une collision est très élevé, poursuit la police. Le conducteur de la trottinette roulait en fait à contresens lorsqu'il a percuté un cycliste. Un temps inconscient et blessé à la tête, il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Sans assurance, il doit régler lui-même la facture salée pour l'intervention de l'ambulance et son séjour à l'hôpital. Immédiatement, le message fait réagir une association d'usagers de la trottinette, les Rallreider, en français « rouler légalement ». Selon elle, cet énième accident est la preuve que le gouvernement néerlandais doit d'urgence encadrer et légaliser tous les types de trottinettes électriques. Et ce, afin de permettre à leurs utilisateurs d'être assurés en cas de blessures et dégâts. Pour l'instant, les autorités néerlandaises ne délivrent de permis de circuler sur la voie publique que pour un nombre réduit de modèles, à condition toutefois d'avoir au minimum 16 ans, d'être équipé de lumières, de réflecteurs rouges et blancs, de disposer d'un numéro d'identification visible sur le véhicule et d'avoir contracté une assurance. Tous les autres modèles peuvent obtenir une autorisation de circuler si leur propriétaire y installe un siège et un rétroviseur. Une aberration selon le lobby de la trottinette, mais dans un pays où le vélo est roi, la trottinette reste minoritaire et ses revendications peu entendues.
Već je šesta godina prošla od posljednjeg kupljenja ovog danka u krvi. Zato je ovog puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća nađen je potrebni broj zdrave, bistre i naočite muške djece između 10 i 15 godine.
Quelle place pour les écrivains du passé dans les pays d'ex-Yougoslavie. Dans une région minée par l'idéologie nationaliste, certains auteurs et leurs œuvres font les frais des tensions communautaires contemporaines. C'est le cas d'Ivo Andrić, l'écrivain yougoslave le plus connu. Près de 50 ans après sa mort, les écrits et le parcours de ce géant de la littérature européenne divisent toujours les Slaves du Sud. Dans le centre de la Bosnie, à Travnik, Louis Seyé s'est rendu dans un petit musée qui lui rend hommage, son reportage.
Avec son toit pyramidal en pierre grise et ses fenêtres en bois, elle est l'une des plus belles maisons anciennes de Travnik. Selon l'intellectuel Enes Škrgo, c'est exactement ici que serait né le grand écrivain yougoslave Ivo Andrić en 1892.
Quand ils voient cette maison, la plupart des touristes, les étrangers, mais aussi les gens de Bosnie-Herzégovine, pensent qu'elle appartenait à une famille musulmane et que c'était une maison musulmane. Mais en fait, pas du tout. Le mobilier que l'on voit a bien été fabriqué sous l'influence orientale ottomane, mais à la fin du XIXe siècle, c'était ce que recherchaient toutes les familles des villes de Bosnie-Herzégovine. les musulmans, les catholiques, comme la famille d'Andrich, orthodoxes ou juifs. Ils utilisaient tous le même type de mobilier, parce que c'était tout simplement la mode de l'époque. Quand les visiteurs comprennent ça, c'est souvent un petit choc culturel. En fait, les gens ne connaissent pas grand-chose de leur propre identité et de leur histoire.
Ne vous laissez pas rebuter par les 500 pages de l'ouvrage d'Ivo Andrić, dont les éditions Belfond proposent une nouvelle traduction.
Grâce à la détermination d'Enes Körgo, la maison natale d'Ivo Andrić est aujourd'hui un musée et l'un des rares lieux culturels de Travnik. Dans la chronique de Travnik, justement, Andrić a brossé un portrait inoubliable de cette petite ville qui a été pendant 250 ans la capitale de la Bosnie ottomane. La Bosnie et ses habitants hauts en couleur, Ivo Andrić les a rendus célèbres dans le monde entier grâce au pont sur la Drina, son roman le plus connu. Pour Stepjan, un Croate de Bosnie qui vit aujourd'hui en Australie, la prose d'Andrić reste une source d'inspiration inégalée.
Andrić signifie beaucoup pour nous. Même à notre époque, ses œuvres nous guident par rapport à notre façon de vivre et dans notre mode de vie. Elles nous montrent comment survivre dans ce monde qui est le nôtre. Mon fils est né ici, mais nous avons déménagé en Australie quand il avait 2 ans et demi. Donc, il ne sait pas grand-chose sur la littérature croate, bosnienne.
Né en Bosnie dans une famille catholique, Ivo Andrić a acquis la nationalité serbe après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce diplomate de carrière a toujours défendu les intérêts de la Yougoslavie. Fils d'artisan, il reste d'ailleurs le seul écrivain yougoslave à avoir remporté le prix Nobel de littérature en 1961. Mais depuis les guerres des années 90, ce prestige ne fait plus l'unanimité dans la région. Traître pour les nationalistes croates, Andrić est accusé par certains bosniaques d'avoir diabolisé les musulmans dans ses œuvres romanesques. C'est ce que prêche par exemple le théologien de Sarajevo, Savet Halilović, qui voit dans l'écrivain un proche des extrémistes serbes et des combattants tchétniques de la Seconde Guerre mondiale.
Personne n'a contribué aussi fortement à l'idéologie tchétnique qu'Ivo Andrić. Ses livres sont des mensonges et des bêtises, des fabrications, des mensonges dégoûtants. C'est ce que nos enfants lisent sans aucune critique objective. Lisez ces livres. Dans les livres d'Ivo Andrić, il n'y a pas un seul Turc normal. Ce sont tous des idiots, des cons, des voleurs. C'est comme ça qu'il nous décrit tous.
Croates, serbes, bosniens, yougoslaves. Alors que les questions identitaires divisent toujours les peuples d'ex-Yougoslavie, l'œuvre et la vie d'Ivo Andrić alimentent régulièrement les débats. Il faut dire que depuis l'éclatement de la Yougoslavie socialiste, la figure d'Andrić n'a cessé d'être récupérée par les nationalistes serbes. Une situation qui désole Enes Škrgo.
Évidemment, ici, la question est très actuelle. En fait, depuis 25 ans et même un peu plus, Ivo Andrić est en quelque sorte victime des divisions et des conflits nationalistes en Bosnie-Herzégovine et dans l'ex-Yougoslavie. On peut le considérer comme une victime au sens littéral. C'est un écrivain mort il y a longtemps et qui a écrit tout ce qu'il pouvait écrire. Et aujourd'hui, la façon dont son œuvre est perçue est complètement polluée par des croyances ou des principes ethniques, politiques et religieux.
Si l'héritage d'Andrić fait autant polémique, c'est que ses romans sont souvent pris pour ce qu'ils ne sont pas, des livres d'histoire. Tout en s'inspirant de faits historiques, Ivo Andrić s'appuie avant tout sur l'imaginaire et la mémoire populaire pour construire ses personnages et délivrer un message universel. Cette liberté de l'écrivain est peu comprise aujourd'hui.
Les gens qui critiquent Andrić le font depuis leur propre position ethnique et selon leur propre compréhension de l'identité ethnique et religieuse. Mais en réalité, la principale identité d'Ivo Andrić est celle d'écrivain de la Bosnie-Herzégovine, celle d'un artiste sans qui ce pays ne peut pas être compris. Et le lecteur doit toujours être conscient qu'il lit une œuvre d'art et de littérature, pas un manuel d'histoire.
Au-delà des polémiques contemporaines, Ivo Andrić reste le conteur hors pair de cette Europe des Balkans, riche de sa diversité et de ses multiples influences.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure en podcast sur votre plateforme d'écoute ou sur notre site internet rfi.fr. À demain.